à tous et bienvenue sur Nos émotions littéraires, un moment de débat sur les livres animé par les élèves de la première S3 du lycée René Gosse. Bonjour Fanny.
Bonjour Anaïs. Nous recevons aujourd'hui quelques invités pour parler de 4 livres du prix Goncourt des lycéens 2016 qui sera attribué le 17 novembre à Rennes.
Pour commencer, nous allons parler du roman Ma part de Gaulois de Magid Cherfi, publié chez Actes Sud. J'ai à mes côtés, comme invité, Monsieur de Murcia.
Bonjour.
Ainsi que 3 de mes camarades, Léo, Titouan et Kinlan.
Bonjour.
Titouan, peux-tu nous parler de ton vécu de lecteur? Quelles ont été tes émotions face à ce livre?
Magid Cherfi, en fait, nous propose plusieurs types de langues qui est très agréable à lire. Et il passe de la poésie au familier. Et il peut même avoir un langage soutenu de temps en temps, donc c'est très agréable à lire. Il peut être très, très lassant quand même vers la fin, parce qu'on s'attend vraiment à ce qu'il réponde certaines choses.
Et vous, monsieur de Murcia, que pensez-vous de ce livre?
Ah, je pense que du bien de ce livre. Il faut d'abord peut-être rappeler que Magid Cherfi est venu à Clermont. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu sur scène. Il est venu en 2015. Hein. Il était seul sur scène et puis il citait ses poèmes. Il disait ses poèmes. Et ce que la petite publication que donne le Sillon pour présenter ses programmes, il y avait un petit poème de Magid Cherfi que je voudrais vous lire là. J'écris pas, je burine dans la roche des falaises, je cogne à la verticale suspendu à des cordes chez Rech. J'écris pas, je percute à la dure comme un manard qui accepte le contrat des aléatoires. Et je trouve que dans ce dernier roman, Magid Cherfi, il burine, il cogne et il percute.
Et Léo, es-tu d'accord avec ce jugement?
Oui, c'est vrai que Magid Cherfi, sur ce livre, il a essayé de nous faire passer un message et il a réussi.
Et d'après toi, quel est ce message?
Il veut nous prouver que c'est pas parce qu'il vit dans la cité qu'il ne peut pas lire de livres et il faut pas avoir honte de se montrer en public.
Au niveau des personnages, est-ce qu'ils vous ont touché?
À moi que tu t'adresses. Alors, moi, j'aimerais corriger quelque chose. Hein. Magid Cherfi, quand il parle de son bouquin, c'est autobiographique. Hein. Il n'est pas là pour apprendre à lire ou à écrire. Il sait déjà lire et écrire. C'est l'année du bac. Hein. Et ce qu'il montre là, c'est l'importance pour un arabe, comme il s'appelle lui-même, pour un musulman, pour un fils d'immigré, l'importance, le passeport que représente le bac pour lui. Hein. Et tout à l'heure, c'est Titouan qui disait que Magid se faisait traiter dans sa cité. Il n'a pas peut-être osé dire les mots, mais pour un arabe, se faire traiter de pédé, de pédale, de tous ces mots-là, comme s'il y avait une relation certaine entre littérature et homosexualité. Ces grosses injures-là, Magid a réussi à passer outre et à avoir son bac, bien sûr.
Par contre, Magid Cherfi, comme il essaye aussi de dénoncer un isolement, même s'il a réussi à passer outre, son isolement, il a mal vécu dès les premières années, quand même, avant le bac.
Est-ce que le personnage t'a touché?
C'est touchant sur le côté qui est, oui, il essaye de passer outre cet isolement qui n'a que 2 ou 3 copains qui sont dans le même état d'esprit que lui sur le fait de lire, de vouloir passer son bac, qui est vraiment quelque chose dans la cité, limite un graal en fait. Ouais, c'est touchant.
Kinlan, pouvez-vous nous parler, peux-tu nous parler des difficultés que rencontre Magid, au cours du récit, à l'école ou dans la rue?
Magid, dans la rue, se fait surtout harceler par des camarades de cité. Hein. Notamment, à un moment, il se fait maltraiter juste parce qu'il ouvre un bouquin sur un banc. Lui, il considère ça comme pas normal, parce qu'il pense que, comme l'école de la République française, hein, il le dit lui-même avec l'école Jules Ferry, on est tous égaux en droit, en fait, on est tous pareils. C'est ce que l'école essaye de lui inculquer, ses valeurs. Et de se faire maltraiter juste parce qu'il ouvre un livre sur un banc, il considère ça pas normal.
Pour rebondir sur ce que dit Titouan, hein, on pourrait ajouter que le combat de Magid dans sa cité, c'est un combat digne de la Troisième République. C'est un militant la première heure. Ce Majid, il a une idée, une pensée qui est beaucoup plus avancée que celle de ses camarades et une analyse beaucoup plus profonde. Il dit au fond, on est français parce qu'on est là, on a eu la vie en France, mais au fur et à mesure, tout au long de la vie, toutes les discriminations, on devient de moins en moins français. Moi, je trouve que c'est cette réflexion autour de l'identité que pose Majid dans ce livre, c'est la question essentielle du bouquin, et c'est quelque chose qui devrait être analysé, commenté dans tous les lycées et par tous les politiques. Je pense que le nœud du bouquin est là. Pourquoi est-ce qu'on est français? Il parle de schizophrénie identitaire. Il ne sait pas. Il dit on se trouve paria parce que nos parents sont des enfants de la guerre d'Algérie. Et nous sommes, l'autre côté, c'est que nous sommes nous en haut par nos études. Et il y a cette dichotomie, cette schizophrénie qui s'installe et qui est dure à vivre pour un gars de la cité.
Donc cela représente un gros point fort du livre. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Il y a quand même un passage dans le livre au moment où il parle quand même vers la fin du livre de son père, quelque chose qui n'a pas évoqué durant une grande majorité du livre. Rien que ça, je pense que lui-même, ça lui a fait du bien de l'évoquer dans ce livre.
Merci beaucoup, nous allons passer à un autre livre. Nous allons maintenant nous intéresser au roman Petit Pays de Gaël Faye, publié chez Grasset, toujours avec Monsieur de Murcia, ainsi que deux autres camarades, Salomé et Anis.
Bonjour.
Bonjour.
Salomé, peux-tu nous parler de l'intrigue de Petit Pays ?
Eh bien, dans Petit Pays, c'est l'histoire de Gabi, un enfant qui, au début, est à l'école primaire. Il a un père français et une mère rwandaise. Il habite au Burundi. Et donc, c'est l'histoire de sa vie avec ses copains à l'école et de tout ce qu'il va faire et tout ce qui va se passer dans son pays et dans les pays alentours.
Au niveau de ton vécu de lecteur, quelles ont été tes émotions face à ce roman ?
Eh bien, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin, puisque l'histoire racontée n'est pas forcément drôle, mais elle existe de façon... Quand, par exemple, Gabi parle avec ses copains, il y a des moments qui sont assez drôles. De temps en temps, je rigolais seule dans ma chambre. C'était très agréable à lire, et les phrases sont simples. Le livre est simple à lire. On avance assez vite. Très agréable.
Que peux-tu nous dire de ce livre ? Qu'en as-tu pensé ?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que donc déjà, le sujet était assez difficile à traiter, je pense. On parle quand même d'un génocide. Mais il a été abordé dans les yeux d'un enfant. Et je pense que ça, c'est un plus pour le livre, pour aborder ce sujet qui est sensible. Et on voit comment cet enfant, donc Gabi, plutôt, a vécu les événements avec ses amis. Et...
Monsieur de Murcia, que pensez-vous de ce que vient de dire Anis à propos du génocide ?
Ben, je le suis en partie, mais je peux peut-être compléter. Moi, ce bouquin, quand il est sorti, il a tout de suite eu le prix de la FNAC. Et tout de suite, les médias se sont jetés dessus. Et il était inscrit à 6 ou 7 prix littéraires. Je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que ce bouquin était tellement recherché ? Moi, je me demandais, est-ce que c'est l'écrivain ? Est-ce que c'est le thème ? Est-ce que c'est le musicien ? Est-ce que c'est l'Africain ? La qualité de son roman, etc. Tout ça. Et j'ai pensé, moi, à une chose, il y a ce côté... on va dire biographique, alors qu'il se défend, ce n'est pas autobiographique. Et puis, il y a l'autre côté, le côté où il parle du génocide. Et il y a ces deux-là, et je me dis que quelque part, les deux choses se reliaient, mais ça sera ma conclusion, je vous la donnerai tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a gêné dans ce livre ?
Qui m'a gêné dans ce livre ? Moi, oui.
Oui.
J'ai beaucoup aimé. C'est un gars, donc c'est un premier roman. C'est des choses... Mais ce que je trouve, c'est que on a déjà lu tout ça. Bon, vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas lu tout ça. Tout à l'heure, avec Majid, on avait aussi ce côté enfance, on avait tout ce côté adolescence et les choses qui se passent. Mais il y a eu des tas de bouquins et d'Africains comme L'Enfant Noir de Kamara Lai ou bien Une vie de boy de Yono. Enfin, il y a eu des tas de romans qui ont raconté la vie d'un petit Africain. Mais où j'attendais, moi, Gabriel Faye, c'est sur le côté génocide. Et là, je trouve qu'il est léger. Il a bien dit qu'il ne voulait pas faire un livre dramatique, machin chose, mais je trouve que c'était un des rares livres qui en parle. Et là, il n'a pas été au bout des choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il a... Il n'a pas voulu justement axer le livre que sur le génocide. Je pense que les bons moments qu'il a passés avant, il voulait les rappeler dans ce livre et en parler. Comme vous dites, il y a eu plusieurs ouvrages sur les génocides, sur l'histoire de l'Afrique. Mais,
sur le génocide, pas beaucoup. Hein.
Pardon ?
Pas beaucoup sur le génocide.
Oui, non, pas beaucoup.
Des romans. Des romans sur l'enfance africaine, il y en a beaucoup. Mais sur le génocide, il n'y en a pas bzf.
Après, l'Afrique, c'est un continent, donc c'est pas la vision, par exemple, là, d'un Kabyle et la vision au Burundi n'est pas la même. Donc, à vrai dire qu'il y a beaucoup de livres sur l'Afrique.
On peut faire beaucoup de ponts, de parallèles entre les...
je suis d'accord.
Que je veux dire, si on prend ce thème-là, le thème d'une enfance africaine, il y a des livres récents comme Alain Mabankou. Tu as lu Alain Mabankou ?
Non.
Petit piment, qui est jubilatoire de A à Z. Tu as un autre écrivain, et qu'on a reçu ici souvent, Ben Othman, qui est algérien, et qui a aussi raconté sa vie d'enfant en France, en plus, qui est bien au-dessus de ça. Et moi, si je pense que ce livre a tant de succès, en tout cas dans les annonces médiatiques qu'il va recevoir, c'est que quelque part, si on se remémore l'histoire de ce génocide qui a eu lieu en 1994, où la France a eu un mauvais rôle, où la France a fait des choses, ou n'a pas fait des choses, qui fait que il y a eu la France, l'Allemagne, la Belgique, puisque c'était aussi un ancien État, belges, que tous ces pays européens ont mauvaise conscience. Et du coup, un bouquin qui parle du génocide de cette façon édulcorée, ils essayent de se rattraper, ils essayent de se déculpabiliser en lui attribuant un prix. Voilà mon opinion profonde.
Merci beaucoup pour vos avis et votre débat sur ce livre. Nous allons passer au prochain.
Alors, le troisième roman est Laetitia de Yvan Jablonka. Autour de la table pour débattre, je suis avec Suzanne Karl.
Bonjour.
Michaël Roch.
Bonjour.
Et Maya Courtier.
Bonjour.
Maya, peux-tu nous parler un petit peu de l'histoire de ce roman ?
Alors, Laetitia, c'est l'histoire de cette jeune femme de 18 ans, de son enfance. Jusqu'à sa mort, son meurtre exactement, parce qu'elle a été violée et tuée. Et donc on retrace sa vie à travers les yeux de sa sœur surtout, et des témoignages, des avocats, tout ça.
C'est une histoire très dure, elle vous a pas trop touchée ?
Si, Laetitia, c'est une histoire très touchante, parce que malgré le fait que cette fille soit morte, sa biographie est très, très précise et détaillée, et on arrive quand même à comprendre ses, entre guillemets, sentiments et ses émotions durant sa vie, qui a été très dure.
Si je peux me permettre d'intervenir, Laetitia, c'est d'abord l'écriture d'un roman ou d'un récit ou d'un essai, on ne sait pas trop dans quel genre classer cette écriture. Mais c'est une écriture qui est faite à partir d'un fait divers. Alors le fait divers, bien sûr, il a donné depuis des siècles, rien que Madame Bovary, il a donné l'inspiration à beaucoup d'auteurs. Mais ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'avec cette manière d'écrire, il révolutionne la manière d'écrire le fait divers.
En fait, on parle de roman, mais moi je pense qu'en fait c'est loin d'être un roman, parce qu'en fait l'auteur, c'est un sociologue et historien. Donc en fait, il fait véritablement une étude de cas à partir du fait divers. Comme on avait parlé Roland Barthes ou d'autres, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une analyse précise de tous les faits, il fait une enquête, c'est à la fois une enquête historique, c'est à la fois une enquête sociologique, c'est en ça que c'est très intéressant, parce qu'en fait, il a le respect de ceux qui ont vécu ça de façon très dure, pour la jeune femme qui a été violée et tuée, et ça, c'est toute sa famille en fait. Il a du respect pour tous les personnages.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Mais ce que je voudrais préciser, c'est que ce livre est particulièrement brillant, à mon avis, parce qu'en fait, il fait dans sa méthodologie, parce qu'en fait, c'est une méthodologie de sociologue, c'est-à-dire vraiment, il fait une étude du milieu sociologique dans lequel vivait la victime, une étude sociologique approfondie, il fait une étude de l'historien, et il fait une étude journalistique, parce qu'en fait, il n'a exclu aucune source, à la fois des sources orales, à la fois des sources écrites, et il a approfondi la méthodologie de façon brillante. Voilà. Et je pense qu'en fait, là où il est particulièrement intéressant, c'est qu'il ne se tient pas simplement aux faits divers. Il s'en tient aussi, comment dirais-je, il met une analyse de ce que peut être le politique quand il s'implique dans un fait divers, de la justice, la façon dont elle est traitée en France et la façon dont la justice fonctionne. Donc en fait, on apprend beaucoup sur le fonctionnement de la justice et on apprend beaucoup aussi sur le fonctionnement des services sociaux parce que tous les acteurs, en fait, ont été impliqués dans cette histoire.
Voilà, je dirais que c'est une enquête, ce sont des enquêtes sur des enquêtes. Voilà. La question que je me suis posée justement, puisque la politique s'en est mêlée avec l'affaire de Nicolas Sarkozy, je me suis posé la question, est-ce que tu te l'es posée, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce battage médiatique, est-ce que Yvan Jablonka aurait choisi d'écrire sur Laetitia Perret? Parce que des comme elle, il y en a des tas aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben effectivement, je crois qu'il en parle quand même dans son livre et il donne une place très importante aux médias. Il y a plusieurs parties du livre qui y sont consacrées. Et c'est d'ailleurs toujours très intéressant. On apprend le fonctionnement des médias, tout ça. Et à quel point c'est les médias qui ont rendu ce fait divers donc très connu et enfin tout ça, alors que oui effectivement il y a d'autres cas comme Laetitia dans le monde, dans la France, tout ça. Et du coup je me suis aussi demandé, mais je sais pas, parce que effectivement peut-être que si les faits divers on en avait pas parlé autant de celui-là, il l'aurait peut-être pas connu, tout ça, donc on sait pas trop comment aurait été retracée la vie de Laetitia sans tous ces médias derrière.
Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup parmi vous n'ont pas lu ce livre jusqu'au bout. Moi, j'ai compris quand même, puisque moi, je suis une adulte. Et pour arriver jusqu'au bout, c'est qu'en fait, le fil rouge dans ce livre, c'est cette Laetitia qu'on va découvrir à travers toutes ces petites enquêtes. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? À savoir les SMS, on va la connaître petit à petit comme ça. On va découvrir cette morte à travers le fil rouge, c'est dans l'enquête, voir cette figure de jeune femme, de jeune fille qui apparaît.
Alors, moi, j'ai pas lu tous les chapitres. Il y en a certains que j'ai passé parce que c'est assez compliqué l'écriture de ce livre, parce que disons que tous les premiers chapitres, je sais plus exactement combien il y en a beaucoup, ils sont assez courts. Tous les premiers jusqu'à peu près aux 20-25 sont très, je dirais, importants parce que c'est là qu'on découvre vraiment Laetitia. Mais après, au fur et à mesure du livre, je trouve qu'il y a des répétitions et des approfondissements. Et j'ai effectivement passé certains de ces passages, car juste ce que j'avais lu et compris au début me suffisait pour comprendre la suite.
Voilà, c'est pour ça que, puisque ce livre est porté pour être au prix Goncourt, je me suis demandé quel allait être le ressenti des jeunes. Alors moi, en tant qu'adulte, je pense que pour moi, c'est un livre qui, deux siècles après, va révolutionner l'écriture du fait divers. C'est vraiment l'écriture contemporaine dont vous êtes aux prémices de cette écriture. Voilà ce que j'en ai ressenti. Je comprends très bien que vous ne soyez pas arrivé jusqu'au bout du livre. Voilà.
Mais c'est en fait dans un souci d'objectivité, comme historien et sociologue, qui fait son travail, en fait. On voit le travail de l'historien et du sociologue, pour moi. C'est un travail très brillant.
Alors, passé le côté technique, je me suis quand même laissé prendre par le côté émotif. Et dans le premier côté, ça a été cette couverture noire avec le nom écrit en lettres de sang, Laetitia. Laetitia, en latin, ça veut dire la joie. Et ça m'a quand même un peu bouleversée parce que je me suis dit que cet enfant, avant de naître, puisqu'il décrit ses quartiers périurbains, avant de naître, le destin, c'était une ironie cruelle que de l'appeler Laetitia, puisqu'elle était vous. À la vie qu'elle a eue. Et moi, je me suis arrêtée à la page 49. Et bon, après, j'ai lu comme vous, hein, jusqu'au bout. Papa a raison. Papa a raison, sinon il tape. Papa a toujours raison, sinon il tue maman. Les hommes ont toujours raison, sinon ils nous tuent. C'est-à-dire que du jour de sa naissance, elle était programmée à accepter cette violence des hommes. Cette violence de la cité, les paroles qui ne sont pas données aux femmes. Et ça m'a fait beaucoup ça m'a beaucoup touchée.
Bah merci beaucoup. Nous allons passer à un autre livre qui est L'enfant qui mesurait le monde de Metarditi. Pour terminer notre table ronde littéraire au sujet des romans du prix Goncourt, nous allons parler de L'enfant qui mesurait le monde de Metarditi, toujours avec Suzanne Karl, avec Bonjour. Nine Lahutte et deux camarades à moi, Loïc et Héloïse.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Loïc, pourrais-tu nous dire un petit peu le résumé de ce livre?
Alors, le résumé de ce livre, c'est en fait, on suit l'histoire de Yanis, un jeune enfant grec autiste qui vit avec sa mère sur une île grecque. Et il voit débouler dans sa vie, lui qui n'aime en aucun cas les changements, à la fois Elliot, un Américain venu habiter sur l'île, suite à la mort de sa fille là-bas, ainsi qu'un projet de construction hôtelier. Yanis va donc devoir modifier sa conception relativement particulière de l'ordre du monde.
Quelle est la particularité de cet enfant ?
Il est autiste et Yanis, pour mesurer l'ordre du monde, il a trois façons. C'est toujours par le calcul. C'est, il compte l'ordre d'arrivée des bateaux, il compte le nombre de personnes qui se trouvent dans un bar de l'île, et il compte le nombre de kilos de poissons qui arrivent par chaque bateau.
D'accord. Et Loïs, ça ne vous a pas dérangé ce point justement très... On va dire qu'il y a... du scientifique dans du littéraire.
Non, moi pas du tout, au contraire, j'ai trouvé ça très touchant parce qu'on est vraiment plongé dans son monde. L'auteur, il prend le temps vraiment de nous mettre dans son quotidien et du coup, on s'attache vraiment au personnage et on est compatissant.
D'accord. Nine, vous êtes d'accord ?
Je suis d'accord, en plus je trouvais très intéressant que des jeunes soient confrontés à ce problème de l'autisme qui revêt plusieurs niveaux. Et sur la plaidoyer de la Grèce.
La description en fait de l'autisme est très intéressante en fait, en quelque sorte, puisque là en l'occurrence on sent très bien comment on peut vivre un enfant et son entourage surtout, la façon dont l'entourage peut encadrer et entourer un enfant autiste. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire.
Parce que cet enfant, il est entouré par qui, justement ?
En fait, il est entouré par sa mère, il est entouré presque par tout le village. Tout le monde le porte, en fait, cet enfant. Comme si le fait d'être autiste pouvait apporter quelque chose à la société dans laquelle il vit. Puisqu'en fait, on ne le considère pas comme exclu de la société, on le considère comme faisant partie de la société. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire, en fait. C'est ça D'accord. qui m'a plu. En tous les cas, c'est une façon de concevoir le handicap qui est très intéressante. Est-ce qu'elle est réellement vécue, je pense, en fait, dans certains milieux. Mais là, en l'occurrence, c'est intéressant. Mais en fait, ce roman est intéressant parce qu'il décrit la Grèce, tout ce que peut apporter la Grèce, tout le contexte de la Grèce aussi. C'est ça. C'est pas pour hasard que ça se passe dans une île, au fond. Mmh. C'est un milieu particulier.
Vous êtes d'accord avec cela, Loïc ?
Dans le fond, oui, c'est plutôt intéressant, mais il y a un truc qui me dérange dans ce livre, c'est le fait d'avoir mélangé deux histoires, en fait. Puisque on voit la vie de l'enfant autiste, Yanis, et j'aurais préféré qu'on continue le livre justement sur ça, et pas qu'on passe sur le projet hôtelier qui, pour moi, ruine totalement le livre.
Moi, je pense qu'au contraire, c'est le but de l'auteur, en fait, de se faire mêler deux histoires. Au contraire, ça nous permet d'avoir, en fait, une prise de conscience sur la globalité des choses, autant géographiquement parlant que sur l'histoire de l'enfant. Donc, je trouve que c'est très intéressant comment il a mêlé les deux histoires.
Oui, moi, je pense que ça oblige l'enfant aussi à une certaine réflexion, parce qu'ils sont habitués, enfin, cette forme d'autisme est habituée à se baser que sur des calculs et être agressif. Et je pense qu'avec cet homme, avec l'homme qui le prend sous son aile et sa mère, il arrive justement à évoluer dans son handicap et accepter un peu plus, refaire un petit peu son ordre.
Moi, ce qui m'a dérangée en fait dans le livre, qui est très bien par ailleurs, en fait, c'est que on sent derrière les jugements de valeur de l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, il a une vision du monde très particulière. Il défend l'écologie, il défend la protection d'un environnement, il défend une société. Et en fait, pour la construction du roman, je trouve qu'en fait, on voit trop la trame, en quelque sorte. On voit trop derrière les jugements de l'auteur. Voilà, donc c'est un peu ce qui m'a dérangée dans cette histoire.
Vous l'avez ressenti aussi, Loïc ?
Je pense que je suis d'accord avec vous, et c'est ça qui me déplaît, c'est que on voit justement trop le ressenti de l'auteur,
ouais.
Et pas assez, on le voit sur certaines scènes aussi, il y a des moments figés de l'auteur. Il arrive à figer des détails dans notre tête, à faire en sorte qu'on arrive à s'imaginer des scènes, et c'est ça qui est bien. Et au lieu d'avoir le ressenti de l'auteur, j'aurais préféré plus de scènes comme ça, imaginaires, on va dire.
C'est ça, c'est ce qui transparaît dans ce livre, en fait. Et il a, une conception du monde, protégé, etc. Et là, on voit très bien la façon dont il construit son roman à partir de ses jugements. C'est un peu dérangeant, me semble-t-il, pour un roman.
Et quelle est la relation entre Yanis et Elliot ?
Oui, mais en fait, là, c'est toujours pour suivre le jugement de l'auteur, c'est-à-dire en fait il mêle Eliot qui veut mesurer le monde, mais à sa façon, puisqu'il est architecte, hein, me semble-t-il, et donc en fait lui il mesure le monde aussi, mais l'enfant lui il a une autre approche de cette mesure et la façon de l'évaluer.
Et quelle est la part de la structure grecque, justement, des mythes dans ce livre, Héloïse ?
Donc, en fait, Eliot, il raconte toutes les semaines une histoire de la mythologie grecque à Yanis. Et ça va le permettre d'évoluer parce qu'il lui fait des dessins très précis. Et donc, il va voir autre chose que son quotidien. Il va lui apporter beaucoup de choses. Et donc, c'est intéressant de voir comment il va le faire évoluer.
Eh bien, merci beaucoup. Et j'espère que ça vous aura plu de participer à cette émission. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Nos émotions littéraires.
Merci de nous avoir reçus.